L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Adieu Forestau, je continue les portraits de forestiers. Après avoir rencontré Adrien le bûcheron, Véléda, divinité patronne des forestiers, Anne-Charlotte, stagiaire en bûcheronnage, lors de notre midinale spéciale Femmes et Forêts, et Nicolas, débardeur à cheval, je vous emmène à mes côtés pour rencontrer Andy Tixier, sylviculteur, entrepreneur, ami et amoureux de la forêt. Il vous parlera des forces qui s'exercent en forêt, forces d'attraction, forces physiques, humaines qui éreintent aussi, forces de la nature, forces transmises pour des forces vivantes. C'est parti. Salut Andy.
Salut Lionel.
Écoute, je suis très heureux d'être avec toi pour cette émission sur les métiers forestiers. Et donc, tu es sylviculteur.
C'est ça, sylviculteur.
Entrepreneur de travaux forestiers en sylviculture. Là, on est sur le terrain, on est sur une plantation donc de Douglas. Mmh. Est-ce que tu peux me parler, toi, de ton parcours déjà? Qu'est-ce qui t'a fait devenir sylviculteur?
L'amour des grands espaces et des moments de silence, je pense. L'amour du vivant, et puis voilà, la tranquillité, la quiétude. Et le fait que quand tu finis une journée et tu te retournes, tu as construit quelque chose et tu l'as pas détruit. Et déjà rien que pour le moral et pour la finalité de ce qu'on fait, c'est déjà pas mal.
On sent la passion là, tu es passionné, il faut être passionné.
C'est un métier, si t'es pas passionné, c'est pas possible.
Et passionné par la forêt.
Par la forêt, par le vivant, par la vie, parce que c'est un travail de longue haleine. J'ai 34 ans, je fais ce métier depuis que j'en ai 16. J'ai attaqué en tant qu'apprenti. J'ai eu la chance d'aller faire du dépressage dans des peuplements que j'ai plantés il y a 16-17 ans. On dit que la forêt pousse doucement, mais elle pousse pas si doucement que ça, parce qu'on voit l'évolution. Ouais. Et c'est intéressant de voir des parcelles qu'on a plantées, qu'on a débroussaillées, qu'on a recarnies, on a mis du tricot, on a transpiré, on a laissé du feu en de la sueur, et les voir grandir, se développer, arriver aux dernières étapes du sylviculteur, qu'est le dépressage ou l'élagage à 2 mètres. Ouais. Après, on s'arrête là, c'est plus notre travail, vu qu'on récolte pas. Et réussir à finaliser ça, même sur une petite placette de ma vie, c'est intéressant et ça fait du baume au cœur.
Wow. Et alors, tu t'es formé sur le terrain ou tu as eu une formation à...
Non, j'ai fait un bac professionnel en apprentissage. Au départ, avant ça, j'ai fait un bac littéraire en histoire de l'art, parcours complètement atypique que j'ai eu. Et puis, j'aurais aimé faire des études, mais mon esprit collait pas avec la manière dont l'école française fonctionnait. Et donc, du coup, j'ai refait un deuxième bac en apprentissage, conduit des chantiers de gestion forestier à Aurillac, dans le Cantal. Et j'ai rencontré monsieur Pierre Ebauer, du coup, à MEMAC, qui a été mon formateur. Un vieux monsieur, passionné aussi de la forêt, qui était pas loin de la retraite quand je suis rentré chez lui, qui m'a transmis sa passion et sa chaleur de vivre par rapport au vivant et à la nature. Et j'ai accroché tout de suite. J'ai bossé quelques années en tant que salarié chez lui, je revenais faire toutes les saisons de plantation. Et puis après, c'était comme une évidence, je me suis mis à mon compte et ça va faire 9 ans maintenant.
D'accord.
Donc j'ai attaqué tout seul, j'ai bossé pendant 2 ans tout seul. J'ai aimé le vivre aussi. Se retrouver sur des gros placards de 15 hectares tout seul, seul face à soi-même et à la nature. Il y a eu des moments sympas, il y en a eu des très durs, des parcelles voilà, où tu sais pas quantifier des vies, où tu crois que la végétation n'est pas très sale. Et finalement, ça l'est beaucoup. Donc voilà, puis tout doucement, j'ai commencé à embaucher. Et voilà, aujourd'hui, on tourne entre 6 et 10 en fonction du personnel que j'arrive à avoir, à trouver et à tenir. Et donc voilà, donc c'est intéressant.
D'accord. Et alors, donc ces 9 ans, tu les as passés à faire quel type d'activité? Est-ce que tu peux nous parler un peu du quotidien des sylviculteurs? Quelles actions vous menez en forêt?
Et de toute manière, c'est vraiment cyclique et saisonnier.
Ouais.
Voilà. De toute façon, tout est régi par ça, dans notre métier.
Ouais.
Voilà. Tu travailles en fonction de la saison. Le cœur, ça reste la pioche, évidemment. On peut pas planter toute l'année, et fort heureusement. Il y a des moments où on s'adapte par rapport à la nature. Donc on va planter un peu à l'automne, quand le temps nous le permet. Donc entre le moment où il fait trop froid et celui où c'est l'inverse.
Ouais.
On arrête du coup sur les périodes de Noël et on rattaque après au début du printemps. Et voilà, en essayant de planter avant qu'il se mette à faire trop trop chaud et du coup arrêter. Donc entre ces périodes, après, une fois qu'on a fini de planter au printemps, la végétation a poussé entre temps.
Ouais.
Donc du coup, on vient débroussailler les plantations à N-1, N-2, N-3 qu'on a planté les années d'avant. Voilà, du traitement tricot, du coup, quand il y a besoin, du coup, donc sur les plantations où il y a des risques de dégâts du gibier, de l'élagage à 6 mètres, l'hiver quand il fait très mauvais, quand on arrive à trouver des chantiers, élagage à 2 mètres et dépressage, ça nous permet de travailler même s'il y a beaucoup de neige. Donc c'est intéressant. Et voilà, et après, dans l'optique d'essayer de fidéliser mes salariés, les bichonner un peu plus, on va dire, que le travail soit moins gras. J'ai ouvert une porte d'ouverture sur un peu de parc et jardin. Donc voilà, on va travailler dans des parcs, faire de l'abattage délicat, de l'aménagement, de la création. Et voilà, donc on se déroge un peu au cœur de civiculteur, mais ça permet de faire autre chose, ça donne un peu des bulles d'air au gars.
Le lien, c'est le végétal.
C'est ça.
On se considère un peu comme jardinier.
On est des jardiniers.
On est des jardiniers du monde. Hein,
on sème des graines, on plante des arbres.
Voilà,
c'est ça.
Donc voilà. Rien de plus normal au final de. Enfin, quoi de plus normal que d'aller au final aussi travailler un peu dans d'autres contextes que les contextes forestiers, quoi.
C'est ça. Donc voilà, en essayant d'être assez large aussi, voilà. Et ce que j'aime aussi dans mon métier, et ce qui est intéressant justement, c'est cette diversité. On fait pas la même chose toute l'année. Bon, on a des périodes quand on prend la pioche, on sait que pendant 2 mois et demi, on la lâche pas.
Ouais.
Mais bon, c'est le temps qui veut ça. On est compris dans un temps imparti, donc il faut qu'on arrive à planter ce qu'on s'est engagé à planter sur cette période-là, tant que le climat nous le permet. Donc c'est souvent ce qui est assez sport. Mais après, c'est intéressant parce que dans une même semaine, tu peux prendre une débroussailleuse et aller débroussailler de la fougère, aller prendre une canne à élaguer, aller faire des élagages, aller attraper parce qu'il y a 2 arbres qui sont tombés dans un parc pour aller les billonner et faire du bois de chauffage.
Ouais.
Et voilà. Et du coup, ça permet de même physiquement de faire tout travailler différemment avec d'autres outils pour l'esprit aussi. Et voilà, et ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas un hectare qui se ressemble.
C'est
là
ça.
Aujourd'hui, on est là en train de planter cette parcelle.
Ouais.
Demain, on va en planter une autre, il y aura peut-être la même surface, mais le relief sera pas le même, le massif sera pas le même, la terre sera pas la même.
Ouais.
L'essence qu'on mettra sera peut-être pas la même. Et du coup, ça reste diversifié tout le temps.
Ouais,
c'est ce qui est riche et intéressant.
C'est une action positive en fait. Vous êtes toujours en train de faire quelque chose de très positif. Il y a des gens qui souvent opposent l'abattage d'un arbre, qui disent voilà, l'abattage d'un arbre c'est plutôt négatif, c'est alors qu'on en a besoin.
Oui.
Là vous faites toujours, si on peut un peu rester sur cette comparaison, vous travaillez toujours avec
toujours.
La forêt, la nature.
On plante, on accompagne, on travaille de la régénération naturelle. On va travailler ce que la nature nous donne, on va la compléter, on va la mettre en valeur, on va la diversifier au maximum. Et on est là pour entretenir, pour les bichonner.
Ouais, tout
et
à voilà. fait.
Ouais. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, une fois que le peuplement il est sauvé, c'est plus de mon ressort.
Ouais.
Moi, j'exploite pas. Alors, j'ai aucun problème sur l'exploitation et la récolte de bois, c'est tout à fait normal.
Ouais.
Mais c'est pas moi qui le fais.
Voilà,
moi,
c'est ça.
Je crée, je bichonne, je sauve et après, elles viennent que pour.
Aujourd'hui, toi, en tant que sylviculteur, quels sont tes besoins? Enfin, de quoi tu. Quelle forêt tu rêves, en fait, sur le plateau de Millevaches? Et au niveau, donc, sur l'approche sociale, quel travailleur, qu'est-ce que tu pourrais dire à un travailleur, un sylviculteur qui voudrait demain s'installer, ou à un jeune qui voudrait demain être sylviculteur, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
Déjà qu'il a bien raison, parce que c'est un très beau métier. Après, je lui dirais de le faire parce que j'aime ce que je fais et je fais partie de ces rares passionnés qui font ça. Après, je lui mentirais pas en lui disant que c'est extrêmement dur, c'est extrêmement pénible, c'est ingrat, il faut beaucoup de passion et de plaisir à le faire, sinon c'est pas possible. Et voilà, après la vision forestière, on le voit tous, c'est en train de changer dans les mœurs, politiquement, culturellement. Voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger, des lignes qui changent.
Ouais.
Et il faut aussi, c'est bien intéressant, ça s'impose à nous de toute manière. Le climat change, les essences varient, on peut plus faire ce qu'on faisait il y a 40 ans aujourd'hui. Donc c'est en train d'évoluer. Et je pense que ça, il faudrait qu'on arrive à se coordonner, nous les rares sylviculteurs qu'on est,
pour
s'entendre là-dessus et justement profiter de ce moment-là pour modifier un peu la facette de notre profession. Parce que voilà, c'est des métiers, je suis jeune et j'aime ce que je fais. C'est extrêmement dur pour moi d'avoir des salariés, de les tenir. Et je les comprends, parce que on est dehors toute l'année. On est dans le froid, physique, dans la pluie, c'est physique. L'été, juillet, quand il fait 40 degrés, on est dessous. Voilà, donc pour le corps, pour l'esprit, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de niaque pour réussir à tenir et de plaisir. Donc je lui dirais de le faire, évidemment. Mais après, j'espère qu'on arrivera à moduler les choses.
Il faudrait presque répartir mieux l'effort, qu'il y ait plus de monde qui vienne dans ces métiers-là.
Oui, mais évidemment.
Pour que le travail peut-être soit moins.
Il y a un besoin, de toute manière.
Soit moins dur.
Voilà, malgré nous, les parcelles se déboisent, elles se déboiseront de plus en plus par rapport au fait qu'il y en a beaucoup malheureusement qui d'un point de vue sanitaire sont plus viables. Donc ce besoin de renouvellement il est là, et il est important. Et bon, je dirais de manière ironique avec le sourire aux lèvres, mais notre cher président nous a promis 1 milliard d'arbres en 10 ans, il va falloir du monde pour les planter, c'est ça. Aujourd'hui on les a pas. On n'a pas les arbres en pépinière, on n'a pas les planteurs pour le réaliser, on n'a pas la capacité de le faire. Donc c'est peut-être aussi, plutôt que dire faut planter 1 milliard d'arbres par an, c'est peut-être, comme je te disais tout à l'heure quand on était que tous les deux, c'est comme le schéma du paysan qui traite la vache. Je veux dire, c'est pas lui qui récolte le fruit de sa richesse, de sa production.
Mmh.
Et le problème, il est là. Nous, on crée la matière.
Ouais.
On crée la production future, demain pour les scieries.
Mmh.
On crée tout ça. Donc, on devrait être tout autant, si ce n'est plus valorisé, que le mec qui scie la planche à la sortie. Considéré. C'est-à-dire que quand on fait ce métier-là, je dis pas qu'on peut pas le faire. Mais si je fais ce métier de mes 16 ans à mes 62 ans, si j'y arrive, ouais, je ne serai pas beau à voir. J'ai 34 ans, j'ai le dos en vrac, j'ai 3 disques qui me manquent. Je sais que je ne pourrais pas continuer comme ça tout le temps. Et pourtant, je suis encore là et j'aime ce que je fais. Mais voilà, c'est dur. On attaque une saison de plantation, vous finissez, vous avez perdu 8 kilos, vous avez 3 cm de cerne sous les yeux.
Ouais.
C'est éreintant, c'est dur. Et j'ai 34 ans. Alors, les deux petits jeunes qui sont là-haut, qui ont 15 ans, qui sont en train de planter, je leur tire mon chapeau et je sais que c'est très dur pour eux.
Ouais.
Et c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'on puisse plus respirer, le faire avec moins de rendement, d'obligations de rendement, qui sont soumis du coup au coût de travail qu'on a et à la rentabilité qui nous est imposée.
Ouais.
Voilà, si on n'était pas obligé d'être obligé de planter 800, 900 milliards par jour, si en plantant 500 ce serait suffisant, ben on pourrait y aller peut-être un peu plus tranquillement, on pourrait prendre le temps en plus de regarder à droite à gauche.
C'est ça, relever la tête, hein,
voilà.
C'est le propre du forestier que aussi de regarder l'arbre à un moment donné, se relever
Mais complètement.
Et le voir s'épanouir. Quoi,
mais hein, c'est ça.
Et du coup, pour s'épanouir, bah, c'est mieux être valorisé, c'est ça.
Complètement. Hein, si valorisé et considéré.
Et voilà, considéré, considéré par autant par les professionnels au sein de la filière
complètement.
Que par le grand public que par l'État.
L'État, les politiques, la MSA, la santé du travail.
Vous êtes les premiers forestiers, en fait.
Oui.
Hein, vous êtes les forestiers qui...
On est les pionniers de la forêt, c'est ça.
Les pionniers de la forêt.
C'est ça.
Sans vous, la forêt... alors, elle arriverait, mais je pense que ce serait pas la même forêt, ce serait pas la forêt dont l'homme a besoin, ce serait...
Elle y arriverait, mais aujourd'hui
elle y arriverait.
Qu'on le veuille ou pas, on est dans une logique de production de bois, c'est ainsi.
Mm.
On a des scieries, on a des besoins nationaux, européens, qui font que du coup on a besoin de produire du bois et qu'on en récolte.
Ouais.
Donc partant de là, on pourrait laisser la nature faire, elle a pas besoin de nous.
Ouais.
Elle se débrouillerait très bien. Les essences pionnières prendraient en place, vivraient 70 ans, elles tomberaient, les autres prendraient le relais derrière, on créerait de la forêt entre guillemets semi-naturelle, mais il faudrait 150, 200, 250 ans pour arriver à avoir des arbres de bonne qualité et de production.
Ouais.
Aujourd'hui, le système fait que c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce qu'on nous demande.
Ouais.
On nous demande de produire de la forêt vite, de qualité, en ayant des arbres sains et pour avoir des produits derrière et connexes d'exploitation qui seront intéressants. Le problème, c'est que faire ça, et ben, c'est toujours tout faire à la course. Et c'est peut-être là, des fois, qu'on se trompe.
Et la course, en plus, on demande aussi à même un sylviculteur, hein, même un ouvrier, d'avoir des connaissances techniques pour rapidement mettre en œuvre les consignes qui sont données par les techniciens, les gestionnaires, les propriétaires. Et donc ça aussi, hein, il faut pouvoir avoir du personnel qualifié bien formé
et intéressé à la chose.
Et intéressé à la chose. Qui...
C'est pareil, les choses elles ont évolué. Le forestier avec sa chemise rouge, qui travaillait il y a 50 ans avec sa grosse barbe, devant le bedonnant, sa tronçonneuse, et qui coupait du bois toute la journée tel un forçat, aujourd'hui c'est plus ça qu'on veut.
Ouais.
On a besoin de gens qui réfléchissent, on a besoin de gens qui ont conscience de pourquoi dans une régénate quand on va arriver à faire un dépressage, pourquoi on va valoriser un être, pourquoi on va plutôt couper le grandis parce qu'on sait qu'il ne tiendra pas, au profit d'un douglas ou d'un mélèze de bonne venue au milieu, qui va être gagné par une essence siafile, une essence de bas étage.
Ouais.
Il faut des connaissances pour ça, il faut le maîtriser.
Ouais.
Mais pour ça, il faut être passionné de la chose,
il
faut s'intéresser.
C'est
et c'est ça qui est important.
La passion est un moteur. Hein.
Un moteur. Et j'ai eu la chance d'être formé par quelqu'un de passionné.
Mm.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends beaucoup d'apprentis, je prends beaucoup de stagiaires. Parce que je sais malheureusement, comme je te disais, que j'arrive peu, voire pas, à en garder à terme. Mais j'essaie de leur léguer cette passion, prendre le temps. Voilà, simplement prendre le temps. Quand on finit une parcelle, qu'on n'est pas loin des agriers, ben, prendre 3 heures avec eux, aller leur montrer l'arboretum et faire le tour pour regarder les essences et leur montrer ce qui marche, ce qui marche pas, l'arbre qui se plaît, qui se plaît pas, et discuter de ça avec eux. Et essayer de les intéresser à la chose.
C'est ça.
Il y en a qui sont réceptifs, il y en a qui le sont moins. Mais ça, c'est le propre du vivant, après.
Mais c'est important, la transmission. Et vraiment, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi.
Apparemment.
Andy, parce que vraiment, cette passion que tu transmets, c'est la base du travail. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à venir te rencontrer. En tout cas, qui veulent faire ce métier-là, de te rencontrer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Andy?
Du coup, moi, j'ai un dépôt sur Ussel, deux rue du Bouquet. Et après, donc, j'habite sur la commune d'Aléra, mais bon, je suis dans le secteur corrézien, donc mon numéro de téléphone est facilement trouvable.
D'accord.
Donc, même si des gens sont intéressés par ce métier et voudraient travailler là-dedans, la porte restera toujours ouverte, donc n'hésitez pas à me contacter.
Voilà, on donnera plus d'infos sur radiovassivière.com. Voilà. Merci beaucoup, Andy, pour cet échange très intéressant. Bonne journée. Un grand merci, Andy, pour avoir partagé avec nous tes pensées forestières que tu accumules au fil des hectares, que tu fais émerger d'ailleurs en forêt et dont les entretiens font jaillir des arbres merveilleux. Allez, pour se mettre en train, on s'écoute une rareté de contestation qui vient direct du paradis vert, un peu psyché. C'est Green Heaven de Red Hot Chili Peppers. We'll be right back.
big difference between above and below. A friend or a bro, leave your body on the floor. Let your spirit fly away like the soul of a crow. Here above land, man has laid his plan. And yes, it does include the Ku Klux Klan. We got a government so twisted and bent. Buying things and guns is how our money is spent. We got BD, heroin, greed and prostitution. Tension, aggravation, L. Ron Hubbard solution. Not to mention hydrochemical pollution. If you think a different way, you're in a mental institution. And that's a heartfelt shame. Cause everyone's crazy, everyone's the same. So watch it only Larry, Curdy and Moby to blame. Take you to a different place, where peace, love, and whales swim through liquid outer space. A grooving and a gliding is great for L's lace. I'm never losing touch with the ocean's embrace. Diviner than a dolphin, that there is none. Cause dolphins just I like to have a lot of fun. No one tells them how the life is run, and no one points at them with a gun. They have a lot of love for every living creature. The smile of a dolphin is a built-in feature. They be moving in school, but everyone's a teacher. Someday, Mr. Dolphin, I know I'm going to meet ya. Back to the land of the policeman, where he does what he else.